car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers.
Si les évangiles nous parlent de la naissance de Jésus et de la période qui l'entoure, ils abordent essentiellement la période qui va du baptême jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus. Une période finalement assez courte, puisqu'elle dure environ 3 ans. 3 ans pendant lesquels Jésus sillonne les chemins de la Judée et de la Galilée. 3 ans pendant lesquels il annonce le royaume de Dieu. 3 ans pendant lesquels Jésus fait des œuvres extraordinaires qui authentifient la venue du royaume de Dieu. Une brèche a été ouverte dans les ténèbres parce que la lumière est venue dans le monde. Des œuvres extraordinaires, Jésus en a fait beaucoup. Pourtant, les évangiles ne nous en rapportent qu'une partie. Au point que Jean, dans son évangile, alors on va passer le cantique jusqu'au diaporama. Ça va venir. Donc Jean, à la fin de son évangile, au chapitre 21, verset 25, dit « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde même, j'imagine, ne pourrait contenir les livres qu'on écrit. » C'est bien évidemment une hyperbole, une exagération de dire les choses ainsi, mais cela souligne bien que beaucoup des choses que Jésus a faites ne sont pas dites dans les évangiles. Beaucoup de choses ne sont pas dites et pourtant ce qui est dit est extraordinaire, hors norme, incroyable. Jésus a fait de grandes choses. Il a fait ce qu'aucun homme n'avait fait et ne fera jamais. Il a changé de l'eau en vin. Il a marché sur l'eau. Il a calmé des tempêtes. Il a rendu la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets, la mobilité aux paralysés. Il a délivré ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Il a nourri des foules entières avec quelques pains et quelques poissons. Il a ressuscité des morts. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle suffit à nous rappeler que ce que Jésus a fait est unique et grand, très grand même. Alors vous vous demandez peut-être où je veux en venir, j'y arrive. En face de ce rappel, de ce constat, des œuvres extraordinaires accomplies par Jésus, j'aimerais mettre une parole de Jésus qui apparaît, quand on la met en face de ce constat, bien difficile à comprendre. Une parole qui trouve sa place dans la série de paroles étonnantes et compliquées de Jésus, une série que nous avons commencée au début du mois de septembre et dont le message de ce matin est le 6e volet. Je rappelle que les autres volets sont disponibles à l'écoute sur le site, ainsi que toutes les prédications ou une grande partie des prédications qui sont données ici le dimanche matin. De quelle parole s'agit-il ? Il s'agit de quelques versets de l'évangile de Jean, au chapitre 14, d'où plusieurs prédications ont été tirées récemment. Nous lisons ces quelques versets, Jean 14, versets 12 à 14. « Amen, amen, je vous le dis, c'est bien évidemment Jésus qui parle. » Celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Ce matin, vous avez trois paroles difficiles pour le prix d'une. C'est pas mal. En tout cas, je ne peux pas faire mieux. Et devant ce texte, je me suis souvent demandé cette semaine quelle mouche m'avait piqué de décider de m'attaquer à ce texte. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai fait et je dois maintenant assumer. Et assumer la difficulté de ce texte, de ces paroles de Jésus. La difficulté de ces paroles, en particulier en face du constat des œuvres extraordinaires que Jésus a faites pendant son ministère. Des paroles difficiles, mais que Jésus a bel et bien dites. Alors que dit Jésus dans ces trois versets ? Où sont les difficultés ? Elles se trouvent dans toutes les affirmations que Jésus fait ici. Dans les trois affirmations qu'il fait, premièrement, Jésus affirme que les disciples, ses disciples, feront les œuvres qu'il a fait. Première difficulté. Deuxièmement, il affirme qu'ils ne feront pas seulement les mêmes œuvres qu'il a fait, mais même des plus grandes encore. Deuxième difficulté. Et puis troisièmement, il affirme que tout ce que ses disciples demanderont en son nom, il le leur donnera. Il faut bien le reconnaître, ces affirmations sont tout sauf faciles à comprendre. Faire les mêmes œuvres que Jésus paraît pour le moins déjà bien compliqué. Mais en faire de plus grandes encore paraît tout simplement impensable, impossible, insensé même. Qu'a bien voulu dire Jésus ici ? Qu'y a-t-il par exemple de plus grand que de ressusciter un mort ? Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Et pourtant Jésus l'a dit. Avant de réfléchir au sens des affirmations de notre texte, j'aimerais faire trois courtes remarques. Premièrement, j'aimerais souligner que dans la langue source, dans le grec, ces trois versets ne forment en réalité qu'un seul verset. Un seul verset souvent traduit dans nos traductions françaises par plusieurs phrases. La signification ou les significations de ces trois affirmations sont forcément liées les unes aux autres. Deuxième remarque, ceux qui sont concernés par ces affirmations de Jésus sont ses disciples, tous ses disciples, et pas seulement les douze, les apôtres. Le texte dit « Celui qui met sa foi en moi ». Pas les apôtres, pas les premiers chrétiens, « Celui qui met sa foi en moi ». Troisième remarque, le temps qui est utilisé dans notre texte est le futur. Un futur qui renvoie à la période après l'ascension, après que Jésus soit retourné auprès du Père. C'est d'ailleurs ce qui est dit. Un futur qui concerne toutes celles et ceux qui croiront par la suite. Un futur qui nous concerne donc aussi. Un mot maintenant sur le contexte. Un contexte que je ne vais pas développer parce que, comme on a fait plusieurs prédications récemment sur ce chapitre 14 de Jean, c'est des choses qu'on a déjà dites à plusieurs reprises récemment. Quand on a abordé le texte où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça c'est quelques versets auparavant. Quand Olivier a parlé du texte « Celui qui m'a vu a vu le Père », c'est juste quelques versets avant aussi. Quel est le contexte de ce texte ? C'est simplement celui du dernier repas de Jésus avec ses disciples. C'est celui des dernières heures que Jésus passe avec ses disciples avant son arrestation. C'est celui où Jésus annonce à ses disciples qu'il va les quitter, qu'il va bientôt les quitter. C'est celui des dernières instructions, des derniers enseignements que Jésus veut donner à ses disciples avant de les quitter. Et avant de les quitter, il veut leur faire comprendre quelque chose de la continuité de son ministère au travers du leur et de celui de tous les disciples après eux. Venons-en maintenant au texte. Et commençons par l'affirmation du verset 12 que les disciples de Jésus feront les œuvres qu'il a faites. Toute la question ici est de savoir de quelles œuvres il s'agit. Certains ont pensé qu'il s'agissait ici ou qu'il s'agit ici d'œuvres d'humilité, à l'instar de celles que Jésus vient de réaliser quelques heures auparavant quand il a lavé les pieds de ses disciples. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi, vous aussi. Des œuvres d'humilité. D'autres ont pensé que les œuvres en question, dans notre texte, sont des œuvres d'amour. Des œuvres d'amour qui font écho au commandement nouveau que Jésus vient de donner à ses disciples quelques instants auparavant dans les versets qui sont juste qui précèdent notre texte, quand Jésus leur dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront pour mes disciples, tous vous reconnaîtront pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Des œuvres d'amour. D'autres, enfin, ont imaginé que les œuvres en question ici sont la proclamation des paroles de Jésus, puisque Jésus va en parler au verset 10. Notre texte, c'est le verset 12 à 14. Au verset 10, c'est juste là, juste avant. Et au verset 10, il parle de la proclamation de la parole comme étant l'œuvre du Père, ou les œuvres de son Père. « Ne crois-tu pas que moi je suis dans le Père, dit Jésus, et que le Père est en moi ? Les paroles que moi je vous dis, je ne les dis pas de ma propre initiative, c'est le Père qui, demeurant en moi, fait ses œuvres. » Et donc certains imaginent que les œuvres de notre texte renvoient à ses œuvres, c'est-à-dire à la proclamation de la parole. Si ces différentes hypothèses ont l'avantage d'amoindrir la difficulté ou les difficultés du texte, il m'apparaît cependant difficile, voire impossible, de ne pas inclure aussi dans les œuvres dont Jésus parle ici tous ces miracles, toutes ces œuvres miraculeuses. Et du coup, si nous devons les emmener avec nous dans la compréhension de notre texte, nous n'avons pas avancé d'un millimètre dans la compréhension de notre texte. Les difficultés demeurent. Elles demeurent et elles s'amplifient même, puisqu'il n'est pas juste question de faire les mêmes œuvres que Jésus, mais d'en faire des plus grandes encore. Alors, quelles sont ces œuvres qui seront plus grandes, plus extraordinaire, plus exceptionnel que celle que Jésus a faite? C'est là une des questions cruciales auxquelles il va bien falloir répondre à un moment ou à un autre. Et c'est ici que, pour avancer dans la compréhension de notre texte, il nous faut maintenant regarder aux deux raisons qui sont données par Jésus à ce qu'il est en train d'affirmer. La première se trouve à la fin du verset 12. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Parce que moi, dit Jésus, je vais vers le Père. Celui qui met sa foi en Jésus fera les mêmes œuvres que lui, et il en fera même des plus grandes encore, parce que Jésus retourne vers le Père. Ça, c'est la première raison. On va expliciter tout ça dans un instant. La deuxième raison se trouve au verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. » Et nous pourrions formuler les choses ainsi en nous souvenant que ce n'est qu'une seule phrase, tout ce qui est dit ici. Celui qui met sa foi en Jésus fera les mêmes œuvres que lui et en fera même des plus grandes, parce que tout ce qu'il demandera au nom de Jésus lui sera accordé. Que nous font comprendre ces deux raisons ? La première raison, celle du retour vers le Père, nous fait comprendre ce qui doit d'abord se passer. Ce qui doit d'abord se passer pour que les disciples puissent faire les mêmes œuvres que Jésus et de plus grandes encore. Il faut d'abord que Jésus retourne vers le Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que certaines choses doivent d'abord avoir lieu, d'abord se produire, et que ce n'est qu'après qu'elle se soit produite que pourra s'accomplir ce que Jésus est en train de dire. Alors, quelles sont ces choses ? Les principales, parce qu'on ne peut pas tout énumérer, sont bien évidemment la mort et la résurrection de Jésus. C'est ces choses qui doivent d'abord se produire, c'est la rédemption qui va être acquise par l'œuvre parfaite de Jésus à la croix et par sa résurrection. Il faut que le salut soit rendu accessible au monde entier par l'œuvre de Jésus. Il faut que le Saint-Esprit vienne équiper les disciples pour la mission que Jésus leur confie. Et ce n'est qu'après ces choses, quand Jésus sera retourné vers le Père, que ceux qui croiront en lui feront les mêmes choses, les mêmes œuvres que lui, et de plus grandes encore. La deuxième raison donnée, celle de l'exaucement des prières au nom de Jésus, nous fait comprendre que ces mêmes œuvres, que ces œuvres, et même les plus grandes, que celles que Jésus a faites pendant son ministère, sont aussi les œuvres de Jésus. Les œuvres accomplies par les disciples sont aussi les œuvres de Jésus, mais de Jésus glorifié, de Jésus qui est retourné auprès de son Père, de Jésus après l'accomplissement du salut, de Jésus agissant au travers de ses disciples. Et cela veut dire que le contraste de notre texte n'est pas entre les œuvres de Jésus et les œuvres des disciples. Le contraste de notre texte est entre les œuvres de Jésus pendant son ministère terrestre et les œuvres de Jésus une fois qu'il est retourné vers le Père. Les œuvres dont il est question dans notre texte sont avant tout les œuvres de Jésus. Ce sont les œuvres qu'il accomplit par ses disciples, au travers de ses disciples. Et elles sont plus grandes parce qu'il est retourné vers le Père, parce que le salut a été accompli, parce que le salut est maintenant accessible à tous. Alors il faut maintenant enfin dire la nature de ces œuvres dont parle Jésus. Chercher du côté d'œuvres plus miraculeuses, plus spectaculaires ou plus surnaturelles me paraît être une impasse. Ce qui ne veut pourtant pas dire que le miraculeux ou le spectaculaire soit à évacuer complètement. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de miracles dans l'histoire de Jésus dont on ne peut pas vraiment douter. Ce qui rend les œuvres des disciples plus grandes, c'est que le salut a été accompli par Jésus quand il retourne vers le Père. Les disciples, après la Pentecôte, après le retour de Jésus vers le Père, sont les instruments d'un salut que Jésus ne pouvait pas offrir tant qu'il était sur terre. Un salut que Jésus ne pouvait pas offrir tant qu'il n'avait pas donné sa vie pour les pécheurs. Un salut que Jésus ne pouvait pas offrir tant que le salut n'était pas accompli, tant qu'il n'était pas mort, ressuscité et glorifié. Certes, les disciples de Jésus n'ont jamais accompli la plupart des miracles de Jésus. Mais ils sont impliqués, nous sommes impliqués, dans l'œuvre grandiose du salut qui est offert à quiconque croit et rendu possible par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Qui peut me dire combien de disciples étaient réunis à Jérusalem le jour de la Pentecôte dans l'attente du Saint-Esprit? C'est au début du livre des Actes. Ils étaient, un peu plus. Qui dit mieux? 120. Ils étaient 120 le jour de la Pentecôte. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Jésus a nourri des milliers de personnes. Il a touché des milliers, des dizaines de milliers de personnes sans doute pendant son ministère. Il a fait beaucoup, beaucoup de bien autour de lui. Il a beaucoup enseigné. Il a impacté de nombreuses vies. Et pourtant, quand il a fallu choisir entre Barabbas et lui, la foule a choisi ce dernier. Enfin, a choisi Barabbas, pardon. Et après un peu plus de 3 années de ministère, il n'était que 120 à attendre la venue du Saint-Esprit. Alors, bien sûr, tous n'étaient pas là. Ils n'étaient pas tous à Jérusalem, mais quand même beaucoup, puisque c'était la Pentecôte. C'était une grande fête. Beaucoup devaient être là. Il n'était que 120, même si tout le monde n'était pas là. Tous les disciples de Jésus. Et que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Que s'est-il passé après la venue du Saint-Esprit? Que s'est-il passé après la prédication de l'apôtre Pierre? La première proclamation de l'Évangile? Que s'est-il passé après que Jésus soit retourné vers le Père? Nous lisons, « Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3 000 personnes furent ajoutées, il faut comprendre, à l'Église. 3 000 conversions pour la première proclamation de l'Évangile. Après la venue du Saint-Esprit, après que Jésus s'en soit allé, après que le salut ait été accompli. Amen, amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera même de plus grandes encore, parce que moi je vais vers le Père. Je crois, sans exclure les miracles, que les œuvres identiques à celles de Jésus, et même les plus grandes encore, sont avant tout les œuvres de salut. Les œuvres de salut rendues possibles parce que le salut a été parfaitement accompli par Jésus, parce que la nouvelle alliance avec Dieu a été faite par le sang de Jésus, parce que le royaume de Dieu est maintenant ouvert au monde entier, parce que les temps de l'accomplissement ont succédé au temps de l'attente et au temps de la préparation. Et Jésus a vécu dans ce temps de la préparation, d'une certaine manière. Oui, Jésus a fait de grandes choses quand il était sur terre. Il a fait des prodiges, toutes sortes de prodiges que nous ne ferons jamais. Il a fait des miracles inégalés. Mais il ne pouvait pas faire ce que ses disciples ont fait par la suite. Ils seront plus nombreux. Ils iront bien plus loin que lui. Ils le feront pendant bien plus longtemps. Et ils seront bien plus efficaces, parce qu'ils le feront sur le socle du salut qui a été accompli. Ils ne pouvaient pas offrir le salut qu'ils n'avaient pas encore accompli. Ils ne pouvaient pas aller jusqu'aux extrémités de la terre et toucher toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples et toutes les nations. Lui ne pouvait pas le faire quand il était sur la terre, mais il peut le faire maintenant, au travers de ses disciples, en exaucant leurs prières en son nom. Les œuvres plus grandes faites par les disciples ne sont donc pas des œuvres extérieures plus extraordinaires, mais ce sont des œuvres de nature supérieure, supérieure même aux guérisons corporelles. Mes amis, qu'y a-t-il de plus grand que le salut de quelqu'un qui était autrement perdu pour l'éternité? Qu'y a-t-il de plus grand? Qu'y a-t-il de plus grand que de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, pour l'éternité? Qu'y a-t-il de plus grand que de devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus? Plus grand dans notre texte ne signifie donc pas plus prodigieux, mais plus excellent. Plus excellent. Et c'est Frédéric Godet qui, dans son commentaire, c'est un vieux commentaire, écrit: le sarment uni au cep peut porter des fruits que le cep ne saurait porter lui-même. Mais c'est parce qu'il est uni au cep qu'il peut les porter. J'aimerais terminer en disant quelques mots sur la prière au nom de Jésus. Cette prière que Jésus exauce toujours. C'est bien ce qu'il dit, n'est-ce pas? Et Jésus l'affirme à deux reprises dans notre passage. Il l'affirme au verset 13 et il l'affirme au verset 14. Qu'est-ce que la prière faite au nom de Jésus? J'aimerais suggérer que c'est essentiellement deux choses. C'est premièrement nous adresser au Père par le Fils. C'est nous présenter devant Dieu au nom de Jésus. C'est nous présenter en faisant valoir les mérites que Jésus a acquis pour nous. Et parce qu'il a ouvert un chemin, parce qu'il nous revêt de sa justice, nous pouvons nous présenter devant Dieu au nom de Jésus et Dieu nous accepte. Ça, c'est le premier sens de prier au nom de Jésus. Et puis, prier au nom de Jésus, c'est prier selon la volonté de Dieu. Ou dit autrement, c'est prier conformément à ce que ce nom représente. L'ambassadeur de France, où qu'il soit dans le monde, ne dit, ne fait que ce qui sert son pays, en accord avec la volonté du gouvernement du pays qu'il emploie et qu'il représente. Prier au nom de Jésus, c'est d'une certaine manière demander ce que Jésus lui-même demanderait pour nous ou à notre place. C'est-à-dire ce que le Père ne peut pas refuser au Fils. Le Fils qui est forcément toujours en accord avec le Père. Prier les mots « au nom de Jésus » qu'on met souvent à la fin de nos prières n'est donc pas une formule magique. Ce n'est pas le sésame qui ouvre toutes les portes de nos désirs. Ce n'est pas parce que je dis « au nom de Jésus » à la fin de ma prière que cette prière est forcément faite au nom de Jésus. que cette prière est forcément en accord avec ce que Jésus est et ce que Jésus représente. Je peux terminer ma prière par la formule « au nom de Jésus » et prier une prière dont le contenu ne s'accorde pas avec la volonté de Jésus, avec ce que Jésus est et ce que Jésus représente. À l'inverse, je peux terminer sans utiliser les mots au nom de Jésus, et pourtant chaque mot de ma prière est en plein accord avec la personne de Jésus et avec la volonté de Jésus et de son Père. Il n'est donc pas question dans notre texte d'un chèque en blanc que Dieu nous aurait fait et que nous pouvons utiliser comme bon nous semble pour satisfaire le moindre de nos désirs. Les prières que Dieu exauce toujours sont celles qui sont faites au nom de Jésus, bien sûr, ce qui veut dire que ce sont celles qui rendent possible le prolongement de l'œuvre du Christ. Ce sont celles qui rendent possible l'avancement du règne de Dieu. Ce sont celles qui amènent les œuvres plus grandes dont nous venons de parler. Ce sont celles qui sont faites au nom de Jésus parce qu'elles sont en accord avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il veut. Mes amis, quel privilège! Quel privilège de connaître Dieu! Quel privilège de connaître le salut qui est offert en Jésus-Christ! Quel privilège, si je suis en Christ, d'être participant à cette œuvre glorieuse et grandiose du salut qui est offert au monde! Quel privilège d'être un instrument dans les mains de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je ne suis pas sûr que je mesure toujours la signification, la portée de ces choses. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité que la nôtre, que d'être dans cette position-là. Aujourd'hui, Jésus est au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, dit l'Épître aux Romains. Il continue à œuvrer. Pas pour le salut, parce que le salut est fait, mais pour que le salut se concrétise dans la vie de milliers, de centaines de milliers, de millions certainement depuis 2000 ans, de personnes, d'hommes et de femmes qui acceptent salut. Il est assis à la droite de Dieu, il continue à œuvrer et il le fait au travers de ses disciples. Il œuvre et ses œuvres aujourd'hui sont bien plus grandes que celles qu'il a faites pendant son ministère terrestre, bien plus excellentes pour toutes les raisons que j'ai essayé d'expliquer. Parce que le salut est accompli, parce que le salut est offert à quiconque croit, parce que le salut est proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu nous accorde à chacun de prendre pleinement notre place dans cette œuvre grandiose qui dépasse de loin tout ce que Jésus a fait pendant son ministère terrestre. Amen.